Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur l'antenne de Mon Paris FM, bienvenue dans votre émission en direct du 13, tout content de vous retrouver. Je voudrais dédier aujourd'hui cette émission à quelqu'un qui a 79 ans aujourd'hui, qui est un artiste photographe qui s'appelle Daniel Lejeune, plus connu sous le nom d'Archibald. Je vous conseille d'aller voir un peu tout ce qu'il fait sur le net, vous allez voir, vous allez être surpris. C'est pas de l'intelligence artificielle, c'est de l'intelligence humaine, il prend des photos, il les modifie et franchement ça vaut le coup. Autour de la table aujourd'hui, on retrouve Monsieur Théo. Bonjour Monsieur Théo.
Salut.
Qu'est-ce que tu penses de ce qui s'est passé hier au foot, Théo, l'élimination de l'Italie?
Un peu de compassion pour nos voisins italiens. Parce que
pourquoi
ça fait
tu dis
même...
ça avec un grand sourire?
Non, n'importe quoi. Non. Je suis vraiment très triste pour eux parce que franchement, ça fait quand même pas mal de temps qu'ils vont pas la jouer, la Coupe du Monde. C'est surtout...
c'est la troisième fois, oui.
C'est surtout pour tous les supporters et tous les passionnés de foot en Italie que ça doit être un peu dur ce matin.
Ah ouais, moi j'ai entendu ce matin sur France Inter, ils ont passé des jeunes qui étaient hyper déçus, je te dis pas. Mais bon, bah écoute, moi je trouve que c'est pas si mal. Moi, ça, tu sais, il y a une finale qui me reste en travers de la gorge, comme tout le monde, comme tous les Français. Et donc, quelque part, eh bien, quand l'Allemagne et l'Italie sont éliminées, eh bien, quelque part, je suis pas mécontent. Voilà, c'est pas beau, hein.
C'est pas beau, non.
On a encore Michel. Salut Michel.
Oui, bonjour Claude.
Alors Michel, lui, il a une carte d'abonnement. Donc, au bout de 5 tampons, puisque c'est sa troisième émission, au bout de 5 tampons, il a une émission gratuite. Il revient, il aime bien venir avec nous. Donc, bah, merci d'être là. On va voir aujourd'hui, tu te passionnes pour le sujet d'aujourd'hui qu'on va voir après. Derrière les manettes, tout là-bas, on a Gézen. Salut Gézen. Voilà, il nous fait un grand coucou. Il est en train de régler les micros en même temps. On vous dit tout. Hein. Et enfin, on a Erwan Edelec. Bonjour.
Bonjour Claude, bonjour à tous, bonjour à toutes.
Voilà, on a décidé de se tutoyer parce qu'on s'est déjà croisés dans les couloirs. On va voir avec toi un petit peu ce que c'est que le VAE, qui est le sujet de notre émission d'aujourd'hui, mais on ne va pas tout divulguer, on verra ça juste après. En attendant, eh ben, on va prendre la suite logique de notre émission. On va commencer avec les spectacles et aujourd'hui, c'est Monsieur Théo qui va s'occuper des spectacles.
Et on commence par l'exposition « Nos agents ont du talent » à la piscine de la Butte aux Cailles. Alors ça se passe du 31 mars au 19 avril, 5 place Paul Verlaine, avec un vernissage le mardi 7 avril à partir de 18h30 pour les premiers curieux. Alors la piscine de la Butte aux Cailles a choisi de mettre à l'honneur les agents de la direction de la jeunesse et des sports à travers la troisième édition de cette exposition. Celle-ci vise à faire découvrir au plus grand nombre les talents artistiques des agents de la DJS qui travaillent dans les 5e et 13e arrondissements de Paris. Vous pourrez aussi découvrir des photos, dessins, kakémonos, peintures et maqueteries dans l'enceinte de la piscine et des bains-douches. Alors rendez-vous aux horaires d'ouverture au public du centre sportif de la Butte aux Cailles pour admirer toutes ces œuvres. Et par ailleurs, je dois le préciser, l'entrée est évidemment gratuite. Ensuite, on a les portes ouvertes au relais Petite Enfance du 13e, le jeudi 12 avril de 14h30 à 18h. Ça se passe 239 rue de Tolbiac au 5e étage. Le relais Petite Enfance du 13e vous ouvre ses portes le jeudi 2 avril. Cet événement est organisé par le SAMF, Service d'agrément et d'accompagnement des assistants maternels et familiaux, qui coordonne l'offre des assistantes maternelles du 13e agréées par la PMI. Futurs ou jeunes parents, vous souhaitez en savoir plus sur l'accueil individuel, sur les actions de soutien à la parentalité développées, ou alors vous êtes à la recherche d'un mode de garde pour votre enfant, cet événement est fait pour vous. Le relais Petite Enfance est un lieu spécialement conçu pour le jeune enfant. Il contribue à sa socialisation, son éveil et son autonomie à travers des activités encadrées et pédagogiques. Pour la deuxième édition du Mois parisien de la santé mentale, la Maison de la vie associative et citoyenne du 13e vous propose de nombreux événements gratuits pour sensibiliser sur les troubles de la santé mentale en lien avec les associations et structures partenaires, grandes soirées festives, conférences, ateliers, pièces de théâtre. Découvrez le programme. Les rencontres culture et solidarité 2026 jusqu'au 11 avril. Embarqué pour un voyage au cœur de l'espace et des étoiles avec la 9e édition des Rencontres Culture et Solidarité, cette année encore les bibliothèques de la ville de Paris, le pôle Rosa Luxembourg, le conservatoire municipal Maurice Ravel et les fondations Pathé unissent leurs forces pour vous offrir une programmation pleine d'aventures dans le 13e. Partez à la découverte de l'univers avec un ciné-concert, des ateliers de fabrication, un après-midi jeux vidéo, une exposition et plein d'autres surprises.
Voilà, et puis petite information supplémentaire qui concerne les transports à l'intérieur du 13e arrondissement. Vous savez que le bus 83 va avoir un nouvel itinéraire puisqu'il va passer maintenant par le métro national et rejoindre la rue du Château des Rentiers. Il se trouve que ça devait démarrer le 1er avril. Alors moi, je dis que démarrer quelque chose le 1er avril, à mon avis, ce n'est pas une bonne idée. C'est toujours une blague. Et bien, c'était une blague, puisqu'en fait, ça va être retardé, puisque la RATP a demandé des modifications concernant la voirie, concernant les arrêts. Et donc, c'est retardé de quelques jours. Et à mon avis même, on va dire la vérité, je pense quelques semaines. Vous avez toutes les informations sur le site de la mairie, dont je vous encourage à aller voir ce qui est marqué sur le bus 83. Je voudrais quand même signaler au passage que ce bus 83 avec ce nouvel itinéraire, c'est quelque chose que l'interconseil de quartier du 13e arrondissement avait demandé au moment de la grande refonte des bus. On s'était réunis en intersécu, on appelle ça comme ça, donc tous les conseils de quartier réunis dans la même salle, et on avait demandé à ce que le 83 puisse relier directement Olympiade à National. Ça a mis du temps à venir, mais c'est là, et donc on ne peut que s'en réjouir. On peut se réjouir aussi que, quelles que soient les tendances politiques, tout le monde s'était mis d'accord autour de la table et avait été soutenu par le maire adjoint chargé à cette époque-là des transports et soutenu aussi par les municipalités actuelles qui a tout fait pour que ce bus puisse passer maintenant depuis Olympiade jusqu'à National. Voilà, je voulais juste dire ça, donc ne vous impatientez pas, c'était une mauvaise blague du 1er avril, mais ça va venir, courant avril, vous allez avoir le 83 qui va desservir la place nationale, le métro national et remonter vers la place d'Italie et dans l'autre sens, ça passera par la rue du Château des Rentiers. On va donc enchaîner maintenant tout de suite avec le dossier du jour. Dans nos quartiers prioritaires et populaires, le pourcentage de jeunes ayant abandonné leurs études est plus élevé que la moyenne nationale. Cependant, nos jeunes arrivent non seulement à s'insérer dans le monde du travail, mais ils arrivent aussi à se faire entendre. Pourquoi ? Déjà parce qu'ils ne sont plus bêtes, ils ne sont pas plus bêtes que les autres, mais aussi parce que depuis tout petit, ils doivent apprendre à évaluer une situation et à se prendre en charge. Du coup, dès leur premier poste, ils percutent, ils s'investissent, ils acquièrent une technicité souvent enviée par les autres. Seulement voilà, dans notre société où tout est basé sur le diplôme, il est difficile d'arriver à un certain stade de sa carrière, de se faire reconnaître sans ce fameux bout de papier. Pourtant, une solution existe, le VAE. Aujourd'hui, Erwan Nedelec est parmi nous pour nous aider à utiliser cette possibilité d'obtenir un diplôme sans passer par la case formation. Erwan, merci d'être présent. On va essayer d'en savoir plus sur le VAE, savoir à quoi ça correspond, savoir comment ça peut fonctionner. Déjà, si je te dis VAE, qu'est-ce que tu me dis ?
Validation des acquis par l'expérience. Donc, un dispositif qui a été créé en 2002.
D'accord. Et qui donc permet, si j'ai bien compris, d'avoir un diplôme sans passer par la case scolaire.
Exactement. En fait, les diplômes, il y a différentes voies d'accès pour y arriver. La voie d'accès la plus connue, c'est effectivement soit un parcours de formation initiale et ou un parcours de formation professionnelle. Là, on est vraiment au niveau de la formation professionnelle. Il y a aussi tout ce qui est la voie d'accès à un diplôme par l'apprentissage. Et un autre dispositif, donc présent mais un peu moins connu, qui est effectivement la validation des acquis par l'expérience, où là, en fait, on valorise les expériences acquises dans différents contextes professionnels en faisant du lien avec le diplôme visé, pour résumer.
D'accord. Ça veut donc dire que si je viens pour un nouvel emploi, soit je présente un diplôme, soit je présente un VAE, mais c'est marqué VAE dessus ou on a le diplôme correspondant ?
C'est exactement le même diplôme. Il n'y a pas du tout de nuance par rapport à la délivrance. Tu as employé le mot papier, entre guillemets, oui. Donc je reprends exactement ce mot-là. Il n'y a pas du tout de nuance au niveau de la teneur du papier, c'est exactement la même chose. C'est juste la voie d'accès qui n'est pas du tout la même, en fait. C'est-à-dire que plutôt d'aller sur, entre guillemets, le banc d'un centre de formation, par exemple, eh ben, en fait, on va aller, pour obtenir ce diplôme, en s'appuyant vraiment sur l'expérience acquise, et je parle bien d'expérience au pluriel. C'est-à-dire qu'on peut être, avoir différentes, on a tous différentes expériences professionnelles. Et je dirais, je serais très mal placé pour ne pas le dire. Mais tout ça fait qu'à un moment donné, ben, on développe des savoir-faire, des savoir-être, des capacités, des compétences finalement. Et ce sont ces compétences-là qui sont transposables dans différents environnements, dans différentes situations, et que par la voie de la VAE, ben, on va valoriser. Alors ça ne veut pas dire qu'on va valoriser toutes les expériences, c'est juste que tout simplement, c'est qu'il peut y avoir un projet d'obtenir un diplôme, de site de reconnaissance par rapport à ces expériences, ben, effectivement d'un diplôme bien précis. Et par rapport à là, ça va être tout le travail des personnes qui accompagnent, et c'est ce que nous faisons donc, au sein de ma structure, d'accompagner des personnes pour obtenir un diplôme visé. Et par rapport à ça, par rapport à leur expérience, en s'appuyant sur le CV, sur des entretiens, etc., ben, effectivement de mettre en corrélation les compétences acquises, de les valoriser et de faire du lien avec le diplôme visé.
Ça veut donc dire que ça peut s'adresser à tous les métiers. C'est-à-dire que si je suis cuisinier, je peux faire reconnaître mon expérience et avoir un diplôme de cuisinier. Si je suis dans le milieu scolaire, je peux aussi faire reconnaître mon expérience. Ça concerne l'ensemble des métiers qu'on peut trouver sur, en France, un peu partout.
Alors, en France, pour obtenir des diplômes, il y a une structure qui s'appelle France Compétences, qui recense effectivement les différents diplômes certifications qui existent, notamment ce qu'on appelle au RNCP.
Et effectivement, voilà, il faut que tu me dises que
voilà, c'est le registre national de la certification professionnelle.
Le registre national de la certification professionnelle,
C'est en fait, c'est une sorte de répertoire qui recense l'ensemble des diplômes et autres, surtout les diplômes donc, qui existent en France. Et sur ces diplômes-là, effectivement, oui, on peut passer par la voie de la validation des acquis par l'expérience. Que ça soit cuisinier, que ça soit effectivement... en tant que dans l'animation, d'autres métiers, tout simplement.
D'accord. Je vais aller un peu plus loin, parce que franchement, ça me passionne. Si je suis dans un cabinet d'avocat et que l'avocat a commencé à me former un petit peu, à me donner un peu plus de dossiers et tout, est-ce que ça peut aller jusqu'à l'obtention d'un diplôme d'avocat ou est-ce que ça reste quand même dans des accès qui sont différents, c'est-à-dire plus, qui ne sont pas reconnus autant que des supports comme le diplôme d'avocat?
Alors là, on est quand même dans un secteur assez spécifique.
Oui, je sais, c'est pour ça que je l'ai pris.
Voilà. Et je dirais que là, il faudra d'abord que je puisse étudier, mais ça me semble un petit peu compliqué comme ça, de l'extérieur, parce qu'on est quand même dans un corps de métier bien particulier. Et effectivement, c'est par rapport au diplôme, pour être vraiment avocat, c'est une autre voie d'accès.
Alors,
je ne connais pas suffisamment la voie d'accès à cette profession pour pouvoir aller plus loin, mais ça me semble quand même assez particulier. En fait, dans tous les cas, ce qui est important, c'est aussi de voir quel est le projet qu'une personne peut avoir et par rapport à cela, bah, effectivement, ça s'inscrit dans une complémentarité peut-être de d'autres dispositifs qu'elle a pu faire déjà en amont. Voilà, c'est vraiment variable. Mais par rapport à l'exemple que tu prends, là, je dirais que je n'ai pas suffisamment de matière pour bien me positionner.
D'accord. Et toi, dans ta structure, on va nommer ta structure, vas-y.
Oui. Donc c'est Compéforma, donc il y a un centre de formation qui est situé dans le 13e arrondissement.
D'accord, bah, c'est pour ça que tu es là, parce qu'on met en avant le 13e, nous. Dans ton centre de formation où tu aides apparemment les gens à avoir ce VAE, quels sont les secteurs que tu couvres, toi?
Alors, avec toute l'équipe des accompagnateurs donc de Compéforma, on est à la fois sur les diplômes du champ de l'animation, donc c'est-à-dire... par exemple, des personnes qui souhaitent travailler dans des structures, par exemple, des centres de loisirs, des EHPAD ou autres. Donc, on est sur ce type de métier-là, dans l'animation, à la fois de niveau bac jusqu'à niveau bac plus 3. Ensuite, on accompagne aussi sur les différents métiers du sport, les diplômes du sport, éducateur sportif dans différentes mentions, spécialités et mentions. Ensuite, les diplômes du social, du sanitaire. Et puis là, vraiment de manière plus... c'est juste un positionnement aussi dans tout ce qui concerne les métiers du spectacle et de l'événementiel, mais là, c'est un petit peu plus particulier, on va dire.
D'accord. Et donc, si moi, je décide d'avoir un VAE, comment je m'y prends? Il faut que je m'adresse à une structure particulière? Il faut que je me fasse recenser quelque part? Comment ça se passe, en fait?
Alors, je dirais que ça a évolué vraiment tout récemment. Avec en fait un nouveau dispositif qui s'appelle de France VAE, qui recense donc certains, qui est une voie d'accès pour se faire accompagner au niveau d'une VAE en fait. Et donc c'est s'inscrire d'abord sur cette plateforme de France VAE, voir si le diplôme que l'on vise rentre dans ce champ-là, et ensuite de contacter ce qu'on appelle un architecte accompagnateur de parcours.
Oh, c'est beau ça.
Voilà, exactement.
Titre, oui.
Et effectivement, c'est ce que nous faisons aussi, entre autres. Donc, il y a cette voie d'accès minimum. Mais d'abord, je vais rester sur cette partie-là,
oui,
d'accompagnateur architecte de parcours. Donc là, en fait, la manière dont ça se passe, c'est qu'on a le contact avec les personnes. Il y a un premier entretien pour voir un petit peu quel est leur parcours, le diplôme visé, et voir ce qu'on appelle la faisabilité par rapport à cela. Parce qu'au niveau de la VAE, il y a deux grandes étapes. Il y a d'une part ce qu'on appelle l'étude de faisabilité, ou ce qu'on appelait avant le livret A. C'est-à-dire que là, on recense un petit peu les différentes expériences, on essaie de voir le lien avec le référentiel du diplôme visé, voir si effectivement on va avoir, entre guillemets, suffisamment de matière. Quand je parle de matière, c'est vraiment, est-ce qu'on va pouvoir s'appuyer sur les expériences des personnes? Parce que c'est ça le plus important dans la validation des acquis par l'expérience, on valorise ce qui a été fait par les personnes. Et ça, c'est vraiment un point qui, pour moi, me tient vraiment à cœur et qui me motive aussi. Donc ça, c'est la première étape. Une fois que donc cette étude de faisabilité, le livret 1 a été complété, c'est transmis au certificateur, donc c'est le certificateur final du diplôme. Et ensuite, une fois que la personne a un avis favorable, c'est là qu'on passe à la deuxième phase, qui est l'accompagnement méthodologique à la rédaction du livret 2. Et c'est là où, effectivement, il y a différentes séances individuelles, dans notre cas pour l'instant, qui sont proposées avec une personne donc, qui connaît le secteur et le diplôme visé aussi. Et de par les différentes séances d'entretien individuel qu'il y a, ça va être effectivement de valoriser. Je suis vraiment sur cette notion de valorisation, oui, parce que c'est vraiment ça qui est vraiment très, très important, de valoriser donc les compétences acquises et de faire le lien avec des différents blocs de compétences, par exemple, qu'on peut retrouver dans un diplôme.
Ok.
C'est un vrai travail de fond, ce travail avec l'accompagnateur, en fait, parce qu'il y a toute une méthodologie à mettre en place pour pouvoir justement faire ressortir les expériences. Et donc, savoir le présenter, rechercher à fond les compétences, même si la personne pense que ce n'est pas franchement applicable, etc. Non, la personne qui est spécialiste, elle est là aussi pour conseiller, même dans la mise en place de la VAE, enfin, le rapport pour le jury, je crois.
Oui, oui. Alors ça, c'est aussi une partie, c'est effectivement la préparation de l'entretien avec le jury, parce qu'après, il y a un dossier qui est rédigé, et ensuite, il y a un entretien avec le jury. Je veux juste rebondir par rapport à ce que tu disais, Michel, c'est qu'effectivement, à un moment donné, lorsqu'on accompagne, on est là pour aussi faire prendre de la hauteur. À un moment donné, on fait une photographie sur l'expérience professionnelle, on fait un petit pas de côté, et puis finalement, c'est en faisant ce pas de côté-là, qu'on s'aperçoit qu'on a développé beaucoup, beaucoup de compétences. Mais parfois, c'est un petit peu, vous savez, quand on est trop dans un certain schéma, on ne voit pas finalement tout ce que l'on peut faire. Et c'est vraiment là le rôle de l'accompagnateur, c'est éclairer la personne sur tout ce qu'elle peut faire et toutes les capacités qu'elle a, entre autres.
Ok, je vais résumer un peu pour nos auditeurs, parce qu'on donne beaucoup d'informations, donc je vais revenir à quelque chose de plus terre à terre. Étape 1, on regarde la faisabilité, on regarde si effectivement, avec le livret 1, tout peut se mettre en place, si on a bien les éléments pour pouvoir aller vers un parcours de VAE. Je parle sous autocontrôle. Étape 2, vous êtes là pour accompagner, pour préparer à ce qui va se passer après, pour mettre en place des aides, pour indiquer à la personne ce qui est point fort, point faible, je présume, et comment se présenter devant un jury, c'est ça?
Effectivement, c'est exactement ça. Je me permettrais juste de préciser un petit point. Avant le point 1, mais finalement, quel est le projet?
Alors c'était ça. Voilà.
En fait, c'est une personne qui dit, finalement, moi j'ai envie d'obtenir un diplôme pour des raisons qui m'appartiennent, tout simplement. Il y en a plein de possibilités, de par les parcours, les stagiaires que j'ai pu avoir. Effectivement, la motivation est variable. C'est la première étape, c'est ça. C'est finalement, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Quel est mon projet? Quel diplôme je souhaite avoir? De quel niveau? Parce que parfois, c'est vraiment très important. Parfois, dans les parcours de vie, finalement, avoir un diplôme de niveau bac, ça a une importance très, très importante.
En fait. Bien sûr.
Et ça, et qu'importe l'âge, en fait. Hein. Et donc, ça, je pense que c'est vraiment la première étape. Une fois qu'il y a eu ce projet-là, cette identification, pardon, du diplôme visé, c'est effectivement, oui, passer à cette étape de faisabilité, de recevabilité, de voir l'adéquation par rapport à cela. Et une fois qu'il y a eu un avis favorable, effectivement, là, c'est la partie de l'accompagnement VAE jusqu'à la préparation à l'entretien avec le jury, donc préparation à la rédaction du dossier, parce qu'à chaque fois, il faut écrire, et se préparer à l'entretien, le passage devant le jury. Dans tous les cas, c'est après le passage avec le jury, en fait,
étape 3, c'est le jury.
C'est la dernière étape. Ouais.
C'est la dernière étape, ouais. D'accord. Et ce jury, il est composé de qui?
Alors, c'est vraiment variable en fonction des diplômes visés. En fait, c'est surtout ça. Parfois, en fonction de certains diplômes, ça peut être des personnes qui représentent le certificateur et des professionnels. C'est vraiment variable. Quand je dis certificateur, c'est l'instance qui délivre le diplôme au final. C'est vraiment dans ce sens-là. Donc, c'est vraiment variable la composition des jurys.
D'accord. Une fois qu'on a obtenu ce diplôme, enfin le oui du jury, il y a beaucoup de temps de mise en place pour obtenir son diplôme, pour que les choses se mettent en place, ou comment ça se passe? Il y a beaucoup d'administratifs, vous êtes là aussi pour accompagner à ce moment-là, ou comment ça se passe?
Alors, une fois que l'entretien est passé, on met en place donc un entretien post-jury, surtout pour voir effectivement comment s'est passé l'entretien, si après, d'avoir déjà le ressenti des personnes, parce que l'accompagnement, c'est pas juste, pour moi en tout cas, dans ce qui est vraiment important, c'est pas juste de me préparer à l'entretien, c'est aussi la suite. Mais finalement, quel est le parcours après? Comment s'est passé l'entretien? Ensuite, lorsqu'il y a l'avis, lorsqu'il y a un avis favorable, donc effectivement, là, c'est la suite. Et là, les délais sont variables. Là, je n'ai pas tous les éléments qui sont en place. Et lorsque l'avis est, je dirais, défavorable, ce n'est pas un échec. Je considère que c'est qu'il y a encore des choses à apprendre. Il y a peut-être des choses qu'il faut affiner, qu'il faut revoir, peut-être retravailler.
Tu peux donc te représenter devant un autre jury quelques temps après.
Tout à fait. Là, il faut après voir effectivement en fonction du diplôme visé, quels sont les délais, etc. Mais il y a effectivement des possibilités. Oui,
le jury donne les motivations ou c'est simplement oui ou non?
Ça, c'est variable en fait.
D'accord, ça dépend des métiers. Il y a des métiers qui ont l'habitude de communiquer et d'autres pas.
Dans tous les cas, les résultats, c'est jamais le jour J.
D'accord.
Voilà.
Je vais préciser quelque chose. Un jury peut donner une validation partielle, c'est-à-dire il ne donne pas le diplôme, mais il donne accès à une formation qui te permet d'avoir ce diplôme. Voilà. Par exemple, si tu as une expérience en tant que responsable dans une activité quelconque qui dure de plus de 5 ans, mais qu'on considère qu'on n'est pas sûr, le jury n'est pas sûr de cette expérience, etc., il va te mettre à l'épreuve, en fait. Il va te dire, vous avez accès à un bac plus 3, mais si vous voulez votre bac plus 4, le diplôme que vous visez, il va falloir faire des cours.
D'accord. Donc, le jury peut reconnaître effectivement qu'il y a un travail de fait par rapport au dossier, peut reconnaître des compétences, mais en disant, à la fin, il faudra repasser devant nous pour avoir le dernier échelon. Mais en attendant, on vous encourage, non?
Non, c'est pas ça.
J'ai mal compris.
Il ne valide pas le diplôme parce que peut-être que l'expérience ne suffit pas ou la compétence ne suffit pas. Moi, j'ai eu ça.
J'ai bien compris.
Ah, c'est du vécu?
Oui, c'est du vécu, Michel. Ouais.
Fais pas cette tête-là, Michel, ça arrive à tout le monde. Vas-y, continue.
Non, mais c'était bien, au contraire. Moi, ça m'a appris beaucoup de choses. J'ai pu rentrer dans le système universitaire et puis reprendre mes études à 50 ans, quoi, tu vois.
Oh, tu les fais pas, Michel, tu les fais pas.
Non, surtout que j'en fais plus maintenant.
Alors, oui, effectivement, Michel, t'as raison. C'est pas parce qu'on... je dirais, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, la validation des acquis par l'expérience est une voie d'accès à un diplôme. Donc, ça veut pas dire que forcément, la réussite va être de 100%. Il peut y avoir, effectivement... Le jury peut se positionner sur une validation totale, sur l'ensemble des blocs de compétences attendus, sur une validation aussi partielle, c'est-à-dire qu'il y a certaines choses qu'il a pu évaluer de manière favorable et d'autres, peut-être pas encore pour l'instant, ou alors ne pas du tout donner un avis favorable pour l'ensemble des différents blocs de compétences. Ça veut pas dire que ça veut dire tout simplement pour eux, pour se positionner par exemple, pour une validation totale, peut-être il manquait encore des petites choses ou lors de l'entretien, ça n'a pas été suffisamment... clair pour eux. C'est plus dans ce sens-là, en fait. Et c'est là, effectivement, où après, au niveau du travail de post-jury, c'est de revoir, effectivement, quels sont les éléments qui n'ont pas permis, effectivement, d'avoir une validation totale. C'est surtout ça qui est important. Mais là aussi, je dirais, c'est pas un échec. Ça peut être aussi un projet pluriannuel, tout simplement, pour une personne. On n'est pas obligé de se dire, voilà, je vais faire le diplôme, je le fais. S'il se compose, par exemple, avec quatre blocs de compétences, par exemple, de dire, je le fais tout cette fois-ci. Peut-être, ça peut être aussi de dire, voilà, cette année, pour des raisons qui appartiennent, parce que au-delà de, je dirais, du coût, c'est aussi un investissement personnel en termes d'écriture, de se dire, non, je n'aurai peut-être pas le temps de pouvoir tout écrire, je préfère le faire sur un an, sur deux ans, par exemple, ou plus. C'est vraiment variable, ça, en fait.
Ok. Tu as entendu dans mon introduction que je parlais des jeunes des quartiers qui avaient moins de diplômes que les autres, mais qui étaient quand même insérés dans la vie professionnelle. Donc, est-ce que ça veut dire que pour obtenir ce VAE, on doit obligatoirement travailler 3, 4, 5, 6 ans? C'est-à-dire qu'il faut avoir une expérience en termes d'années, ou est-ce que je peux rapidement me faire ce parcours de VAE et puis un autre VAE derrière, un autre VAE, et monter au fur et à mesure comme ça? Est-ce qu'il y a une durée minimum pour pouvoir rentrer dans cette route du VAE?
En allant sur le dispositif de France VAE, donc effectivement, et même de manière générale, maintenant on ne demande plus effectivement d'avoir une expérience minimum. Avant, c'était souvent un an d'expérience à minima ou 1607 heures cumulées.
C'est ce que tu as appelé le nouveau VAE tout à l'heure, si j'ai bien entendu.
Alors, c'est une autre approche, tout simplement.
Oui.
C'est-à-dire que pour la VAE, pour résumer, je n'ai pas envie non plus d'être trop technique.
Oui, vas-y,
en fait.
Non, c'est très bien. Pour l'instant, on comprend tout, il n'y a pas de souci.
En fait, il y a deux aspects. Soit les diplômes sont répertoriés sur le site de France VAE. Et là, effectivement, on peut faire appel à ce qu'on appelle un architecte accompagnateur de parcours. Et là, donc, dès le début, dès la prise de contact avec une personne, ben, on va vraiment étudier le projet. On peut aussi proposer des temps de formation. C'est limité, mais il y a aussi des temps de formation très courts qui peuvent être proposés pour, effectivement, mettre tous les atouts au niveau de l'obtention de son diplôme, en fait. Je veux dire ça comme ça. Après, par rapport à un jeune... Ben, effectivement, en fonction de l'expérience, du projet aussi, ben, il faut voir déjà si le projet est réaliste, si c'est atteignable. Parce que parfois, on peut se dire, voilà, j'ai telle expérience, mais mon rêve, c'est d'avoir tel ou tel diplôme, etc. Et tout. C'est voir est-ce qu'effectivement, on va quand même avoir cette adéquation par rapport à l'expérience vécue, en fait.
D'accord. Alors, je vais reposer ma question autrement, parce que je n'ai pas eu ma réponse.
D'accord.
ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'il faut que je travaille au moins 12 mois dans un poste ou dans une filière pour pouvoir présenter un VAE, ou est-ce qu'il n'y a pas de minimum de mois ou d'années ou un certain truc dans ce goût-là?
Alors, théoriquement, maintenant, non. Mais néanmoins, si par exemple une personne a eu 3 semaines d'expérience dans une fonction, je te cache pas que très vite, dès l'entretien, on va voir qu'il va nous manquer beaucoup de choses, quoi, en fait.
D'accord.
C'est surtout ça. C'est vraiment ça. Théoriquement, non. Maintenant, on peut, sur certains diplômes, eh ben, effectivement, aller sans expérience. Mais très vite, on va s'apercevoir que il y aura une différence très importante entre le niveau attendu des blocs de compétences et l'expérience acquise, en fait. Et là, ça va être vraiment très, très compliqué.
J'ai une question, Erwan. Concernant cette VAE, est-ce qu'elle reconnaît les compétences informelles?
Oh là, précise-nous, c'est quoi les compétences informelles, Michel?
Qui ne sont pas liées à une structure professionnelle. Des compétences artistiques, des compétences qui viennent des hobbies ou des choses comme ça, quoi.
Par exemple, la radio.
Par exemple, la radio.
Alors, c'est une très bonne question, Michel. Et là, je pense qu'à un moment donné, c'est aussi se dire, mais finalement, comment est-ce qu'on pourrait définir une compétence? La compétence, il ne faut pas oublier aussi, je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment, en fait, c'est des savoir-être, des savoir-faire, des capacités dans un contexte professionnel bien défini. C'est surtout ça. Donc, par rapport à ce que tu dis, si je dis par rapport à la radio, par exemple, on peut peut-être avoir un diplôme où, finalement, au niveau des blocs de compétences, à un moment donné, la prise de parole est quelque chose qui est important. Est-ce que, finalement, une expérience en tant qu'animateur de radio, la prise de parole que nous avons là, est-ce que, finalement, on pourrait avoir suffisamment d'expérience pour pouvoir la valoriser, ou est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'on peut garder un petit peu là et puis qu'on a un peu sous le coude et de dire, bah, finalement, le jour de l'entretien, ce n'est pas quelque chose qu'on peut partager, tout simplement. À chaque fois, c'est voir par rapport au bloc de compétences, son niveau attendu, aux expériences, est-ce qu'on va avoir cette notion de matière? Quand je dis vraiment matière, c'est vraiment ça. Est-ce que ça va être suffisant par rapport à ce que l'on présente? En sachant que ça peut être très, très varié, en fait, les expériences, en fait, tout simplement.
Ok, écoute Erwan, je te propose, on va lancer tout de suite notre petite pause musicale, de façon à boire un petit coup d'eau au passage. Et puis c'est passionnant, le dossier est très complet, j'ai pas été jusqu'au bout de mes questions, donc on se retrouve après et on continue cette émission. Simplement, nous dire ce que tu as choisi comme titre aujourd'hui.
Alors.
Et pourquoi?
Oui, surtout pourquoi.
Voilà.
Aujourd'hui, donc j'ai choisi une chanson qui est quand même dans le répertoire assez français, c'est la chanson d'Edith Piaf. Non, je ne regrette rien, qui a été composée donc en 1956 par Charles Dumont. Et pourquoi cette chanson-là, au-delà effectivement de « Non, je ne regrette rien », c'est aussi parce que ça représente un petit peu mon parcours de vie, tout simplement, et aussi un souvenir mémorable d'un concert de Charles Dumont en 2015 à l'Olympia, tout simplement.
Ok, bah écoute, on va se mettre dans l'atmosphère tout de suite et on se retrouve juste après.
ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non. Rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie. Ça commence avec toi.
Mon Paris FM.
De retour dans les studios de Mon Paris FM sur notre dossier VAE. Et on était en train de discuter avec Erwan pendant que la chanson d'Edith Piaf passait. Pardon. En fait, il y a une raison pour laquelle aussi tu as choisi cette chanson, tu ne l'as pas dit tout à l'heure, mais en fait, tu étais régisseur quelque part, non ?
Oui, tout à fait. Je parlais tout à l'heure de mon parcours professionnel, qui est aussi atypique. Effectivement, à un moment donné, dans ma vie pro, j'ai travaillé dans le domaine du spectacle, et notamment, pendant un certain nombre d'années, j'étais un des régisseurs parce qu'il y en a plusieurs de cette salle-là, donc qui est la salle de l'Olympia, tout à fait, oui.
D'accord. Et tu as même eu l'occasion de rencontrer quelqu'un d'autre qui s'appelle Johnny, si j'ai bien compris. Et pour tout vous dire, en fait, la première chanson choisie par Erwan, c'était...
L'envie.
L'envie, mais que j'ai passé la semaine dernière. Donc du coup, on lui a dit, faire une redite, c'est peut-être un peu embêtant. Et du coup, il s'est dit, mais c'est pas grave, j'en ai un autre qui est aussi bien. Et il nous a proposé Edith Piaf. Donc merci pour ce moment, parce que moi j'aime bien, franchement, même si c'est des vieilles chansons, c'est... D'abord, je suis vieux maintenant, mais ça, je sais que ça va énerver Michel si je dis ça, mais c'est vrai que j'aime bien. On va revenir au VAE, il y a quand même un point qu'on n'a pas abordé, qui me paraît être quand même quelque chose d'important, c'est que tout ça, ça se paye ou ça ne se paye pas ? Il y a un budget, il n'y a pas de budget, qui prend en charge tout ça ?
Alors, au niveau du financement, effectivement, de l'accompagnement pour la validation des acquis de l'expérience, si la personne souhaite être accompagnée, il y a différents leviers qui existent. Soit ça peut être sur du financement personnel, ça peut être aussi le fait de pouvoir mobiliser son compte CPF. Pour rappel, toute personne, tout salarié a droit à mon compte CPF à partir du moment donné où donc il y a eu un certain nombre d'années d'expérience. Ça peut être aussi des financements dits employeurs ou autrement d'autres structures qui financent aussi la validation des acquis. C'est vraiment variable en fait.
J'ai retenu quelque chose dans ce que tu viens de dire, c'est si la personne décide, c'est-à-dire que moi... si j'ai pas les moyens de financer, s'il y a quelques problèmes, je peux y aller directement sans personne.
J'ai des expériences effectivement où des personnes ont eu un premier passage sur les diplômes où ils se sont pas fait accompagner et finalement au second passage ils font appel à nous.
D'accord, ok. Mais je peux tenter tout seul et pour aller plus loin, si je me fais recaler. Le deuxième passage, je peux le passer tout seul aussi si des fois j'ai pas. Parce qu'il y a une question de finance quand même.
Faut dire, tout à fait.
On est dans des quartiers où il y a quand même aussi des problèmes de financement. Il faut dire les choses comme elles sont. Tout le monde n'a pas le CPF, tout le monde n'a pas la possibilité de se faire financer. Donc éventuellement, je peux faire. Si mon employeur, pardon, ne veut pas participer, je peux essayer tout seul de faire quelque chose.
Oui,
c'est plus compliqué, je présume.
Ça dépend de chacun par rapport à ça. Après, ce qui n'est pas simple, c'est d'avoir aussi la compréhension des référentiels. De diplôme. Parfois, entre ce qu'on fait et puis finalement le choix de certains mots, ça peut être un peu compliqué, mais c'est tout à fait possible. On peut le faire à titre... tout à fait. soi-même.
Ok. Je voulais revenir sur cet accompagnement. Cet accompagnement, on a vu qu'il y avait un architecte, si j'ai bien compris.
Oui, pour ça, oui, certains voilà. diplômes, oui, on peut être accompagné.
Mais est-ce qu'il y a aussi une équipe autour de toi? Est-ce que vous êtes plusieurs à intervenir? Comment ça se passe?
Oui, bien sûr, je ne suis pas tout seul. Hein. Pour chaque secteur dont j'ai précisé tout à l'heure, l'animation, sport, sanitaire, social et la partie événementielle, j'ai une équipe en fait, d'accompagnateurs VAE qui sont du secteur et qui eux, sont, c'est avec eux que les différents rendez-vous sont programmés individuellement avec les personnes qui nous contactent, en fait. Voilà. Dans tous les cas, moi, j'ai un entretien avec les personnes au tout début. Et après, parce que je considère aussi que l'accompagnement en VAE, c'est aussi une histoire humaine. Parce qu'à un moment donné, on est tenu dans la confidentialité, bien sûr, au niveau de nos échanges. Mais, en fait, la VAE, pour moi, c'est... On a un diplôme, on connaît le référentiel, et finalement, on écrit un livre. On écrit en fait son propre livre de sa propre histoire professionnelle. Et c'est vraiment ça en fait, la VAE. Et je dirais l'avantage pour l'écriture de ce livre, finalement, ce n'est pas tout à fait la feuille blanche, parce qu'on a les données qui sont là dans le diplôme visé, on connaît les blocs de compétences, et c'est finalement par le choix des mots, par l'accompagnement méthodologique, tu parlais de méthode tout à l'heure, Michel, et c'est exactement ça. Et en s'appuyant aussi sur l'accompagnateur qui nous permet de prendre du recul sur notre propre situation, eh ben, on écrit ces différents chapitres de ce livre-là.
Ok, je continue un peu mes questions bêtes, mais moi je ne connaissais pas du tout la VAE. Est-ce que vous êtes obligé d'aller sur place quand il s'agit de métiers manuels comme la cuisine ou comme le sport? Est-ce que vous allez voir ce qui se passe dans les entreprises ou vous êtes carrément en dehors et vous faites complètement confiance à ce que dit la personne?
Alors, à ce jour, l'expérience que l'on a, nous, au sein de CompuPharma, tous les entretiens se font en distanciel. On a un rayonnement sur... pas seulement que la France hexagonale, on a aussi accompagné en dehors de la France hexagonale, en fait.
C'est-à-dire ?
En dehors de la France métropolitaine.
Ouais.
Mais c'est uniquement que les entretiens se font en individuel, en distanciel.
Mais de personnes qui sont français et qui veulent des diplômes français, ou même n'importe qui dans le monde.
Non, pour l'instant.
Je suis coréen, je vais avoir un diplôme français.
Non, je parle plus des territoires outre-mer, etc.
Ah, d'accord, je n'avais pas compris.
Voilà, c'est dans ce sens-là, en fait, tout simplement. Par rapport à ta question, à ce jour, non, on ne s'est pas du tout déplacé en entreprise parce que c'est uniquement qu'en visio, donc en distanciel. Pourquoi pas avoir, effectivement, en fonction de la possibilité, si c'est un projet d'entreprise, de développer la VAE, de voir par rapport à cela. Mais là où je rebondis par rapport à ta question, c'est qu'en fonction des diplômes ou des titres qui sont visés, il peut y avoir une partie expérience. Et ça, c'est vraiment une partie mise en pratique. Et ça, c'est vraiment variable. C'est pour ça que là, la question, et c'est tout le rôle que nous avons aussi, c'est de voir finalement le passage devant le jury, en quoi ça va constituer ce passé. Pour l'instant, les expériences qu'on a eues, c'est le dossier et entretien. On n'a pas eu les étapes de mise en situation. Mmh. Mais ça, c'est vraiment une étude qui est faite dès le début, en fait.
Il ne faut vraiment pas prendre à la légère le jury, hein, qui est composé de professionnels et qui sont là vraiment pour... ils remarqueront tout, hein, ta position, ton expérience... la réalité de ton savoir, etc., etc., tu seras vraiment décortiqué dans ce jury, en fait. Parce que c'est un engagement qu'ils prennent, hein, quand même, sur la remise du diplôme, en fait, ou la possibilité de faire des études supérieures, en fait. Voilà.
Je vais continuer le sillon, parce que moi, j'ai besoin d'avoir mes réponses. Je vais prendre quelqu'un qui est cuisinier. Mmh. Un cuisinier, c'est quand même quelque chose de très manuel, avec des odeurs, avec des goûts, et ainsi de suite. Est-ce que ça veut dire que les diplômes sont plutôt basés sur l'hygiène, où tu peux décrire des process d'hygiène, ainsi de suite? Ou est-ce que le cuisinier, bah, il va dire des recettes? Comment ça se passe au niveau du jury? Ça, réellement, au sens, je vois très bien ce qui peut se passer sur d'autres professions, mais tout à l'heure, on a cité la cuisine, et donc je me demande comment ça peut se passer quand tu n'es pas devant un piano.
Alors, je suis un peu ennuyé avec ta question, tout simplement parce que ça ne fait pas partie des diplômes que nous on propose.
D'accord.
Parce que donc, nous, les différents secteurs, donc, c'est animation, jeunesse, donc ouais. Animation jeunesse, sport, sanitaire, social, et après, donc, toute la partie aussi, comme je disais, de manière plus très très rare pour l'instant, c'est juste un positionnement, le métier du spectacle et de l'événementiel. Donc les métiers, effectivement, de tout ce qui est cuisine, on ne propose pas, en fait. Donc je ne connais pas toutes les attentes là en tête du diplôme. C'est plus par rapport à ça. Même si, effectivement, au sein de CompuPharma, on propose une formation courte en lien, effectivement, tout ce qui est l'hygiène alimentaire. Donc c'est une formation courte par rapport à ça. Mais on ne propose pas la voie d'accès à un diplôme de cuisinier ou autre dans ce secteur-là par la VAE, parce que je ne l'ai pas mis encore en place par rapport à ça, tout simplement. Donc, je suis assez embêté, parce que je ne connais pas, en fait, le niveau attendu du référentiel, tout simplement. Et je ne vais pas m'engager sur quelque chose où là, je ne le connais pas. Je suis vraiment désolé, en fait, Claude.
Non, non, je te comprends tout à fait. Combien tu as de personnes qui passent par an dans ta structure? Est-ce que c'est quelque chose qui est très répandu ou est-ce que c'est quelque chose qui monte en puissance? Comment ça se passe?
Alors, ça monte en puissance parce que la validation des acquis par l'expérience n'est pas connue, en fait, vraiment comme dispositif. Là, en moyenne, on est sur une vingtaine de personnes. C'est vraiment minime, en fait. Ce n'est pas très, très important. Je dirais que ça monte en puissance, néanmoins, par rapport à avant, parce qu'on en parle, c'est pas très connu, mais on en parle de plus en plus, quand même, parce que ça, je dirais, ça coûte quand même moins cher que faire une formation. On va aussi dire les choses telles qu'elles sont. Et c'est aussi, en termes de flexibilité, ben voilà, une personne a identifié quel diplôme, elle n'a pas le temps pour des raisons professionnelles ou même parfois personnelles, tout simplement. C'est pas évident de se dire, ben voilà, pendant un an, je pars régulièrement en formation, je pars une semaine, je reviens, ce n'est pas tout le temps possible. La voie d'accès par l'expérience est effectivement un autre moyen plus flexible où on pose les rendez-vous directement avec son accompagnateur ou son accompagnatrice, en fait. Donc, il y a une flexibilité par rapport à ça. Ensuite, la validation des acquis par l'expérience, même si j'ai dit qu'on pouvait mettre des temps de formation, ils sont quand même très limités parce que c'est limité à 70 heures. En aucun cas, on remet des supports pédagogiques, on n'apprend pas à faire les choses. On s'appuie vraiment sur ce qui a été acquis. Et ça, c'est vraiment important. Je tiens vraiment à le préciser. C'est une autre démarche, en fait. C'est vraiment une autre voie d'accès au diplôme.
OK. Alors, tu sais qu'ici, on est donc dans un quartier prioritaire.
Oui.
On a des quartiers populaires à côté qui sont d'autres formes de quartiers prioritaires. Est-ce que tu as beaucoup de demandes par rapport à cette population et comment vous vous êtes intégré dans ces quartiers?
Alors, est-ce que j'ai beaucoup de demandes par rapport à cette population? Là, je n'ai pas d'éléments là-dessus. La seule chose sur laquelle je peux rebondir, c'est qu'effectivement, pour un type de diplôme, je pense notamment au diplôme en lien avec l'animation, donc ce qu'on appelle le BPJEPS, parfois c'est assez connu ce type de diplôme-là, hein, c'est un diplôme de niveau 4, et où effectivement, de par leur expérience, les personnes qu'on accompagne peuvent rayonner sur des structures, peuvent être dans des structures qui rayonnent sur des quartiers différents QPV, par exemple. Mais c'est plus dans ce cadre-là. Ensuite, après, je dirais qu'au niveau de l'origine des personnes, je dirais que c'est surtout ce qu'il y a au-delà de cette notion de territoire. C'est un petit peu, mais quelle est l'expérience acquise? C'est surtout ça qui est le plus important, en fait.
Et donc, dans la population que tu as, est-ce que tu as plutôt des gens qui démarrent avec un niveau, disons bac ou même pas bac d'ailleurs, ou est-ce que tu as aussi une population qui vient faire du VAE pour quelque chose de beaucoup plus haut et qui veulent encore monter plus haut? C'est-à-dire que ta population, elle s'étalonne de quelle façon?
Et je rajouterai une question, si tu permets,
vas-y,
Claude. Est-ce que tu as constaté des freins qui sont spécifiques aux quartiers prioritaires? Non?
Alors pour ta question, Michel, non, pas spécifiquement, non du tout. Alors, au niveau des diplômes, on en accompagne principalement de niveau bac à bac plus 3, en fait. Après, je dirais que c'est toute la richesse et toute la beauté au niveau d'être accompagnateur. J'ai des souvenirs quand même de personnes qui, finalement, pour avoir, je l'ai dit tout à l'heure, un diplôme de niveau 4, donc niveau baccalauréat. Alors, c'est un bac pro ou autre, mais c'est l'impact que ça a pour la personne à titre individuel. J'ai un souvenir d'une personne qui a plus de 60 ans. C'était la première fois qu'il a obtenu un diplôme de sa vie. Et une autre personne qui dit, ouais, mais en fait, Erwan, cette année, je vais pouvoir aussi dire à mon fils qui passe son bac que moi aussi, j'en ai un, en fait. Donc, c'est aussi des expériences. C'est tout ça qui fait que c'est une partie de ce que je fais que j'apprécie. C'est aussi cette reconnaissance un petit peu indirecte qu'on peut avoir, en fait, d'avoir accompagné la personne qui, soit effectivement d'obtenir un diplôme, ça peut être tout simplement aussi pour une histoire de salaire, hein. Il faut être très clair aussi par rapport à ça, parce que il y a une notion de rémunération. Là, je vais parler avec beaucoup de réserve, et c'est vraiment ce que je pense par rapport à cela. Je pense que la validation des acquis par l'expérience peut être aussi un levier social. J'en suis intimement persuadé.
Donc tu confirmes que c'est un dispositif qui permet de réguler certaines inégalités,
je pense,
sur le territoire.
Mais ça, c'est vraiment mon point de vue personnel, par aussi l'expérience que j'ai pu avoir. Quand une personne te dit, ouais, je suis bien content d'avoir réussi un diplôme niveau bac, j'en ai jamais eu de ma vie, ou j'ai quitté l'école très très jeune, et de par l'investissement, et là je pense vraiment à une personne en fait qui a passé tous en étaient à écrire, qui avaient vraiment travaillé, qui avaient un travail à côté, qui avaient au niveau d'âge, je pense à peu près autour de 50 ans, 45-50 ans, et qui a passé effectivement tout l'été à écrire. Ça a été compliqué, hein, très très compliqué, mais ceci, tout le travail que l'on fait au niveau de l'accompagnement, c'est ce suivi individuel quoi, en fait. Donc voilà, je dirais c'est surtout ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question.
Ah, tout à fait, tout à fait. Oui, tout à fait. Ce qui prouve que le VE n'étant pas très connu, il y a beaucoup de boulot à faire, Michel, dans les QPV.
Oui. Oui, il y a beaucoup de communication à faire, effectivement, pour mettre certains dispositifs en avant, et dont la VAE. Et voilà, il y a encore beaucoup de marge, même pour les conseils citoyens, pour la radio.
Ok, alors je me suis tourné vers Michel parce qu'en fait on avait prévu aujourd'hui de vous parler un peu des conseils citoyens qui sont donc des habitants qui sont réunis au sein des QPV et des QPOP dans des quartiers prioritaires de la ville et des quartiers populaires de la ville de Paris. On n'aura pas le temps de le faire aujourd'hui, mais on en a discuté avec Michel et on va faire une émission spéciale où on va s'ouvrir auprès d'autres arrondissements de Paris. On va faire venir d'autres QPV du 14e, éventuellement d'autres arrondissements du nord de Paris. On va carrément consacrer une émission entière d'ici à la fin de la session, d'ici aux vacances. On va consacrer une émission au QPV. Erwan, c'était très enrichissant. Franchement, merci beaucoup. J'ai appris plein de choses. Ça m'a donné envie, moi, peut-être de faire du VAE, pour tout dire, parce que j'ai pensé à plein de choses me concernant, mais c'est ce qu'il y a de bien. Je ne sais pas, Monsieur Théo, ce que tu en penses.
Je trouve que c'est une très bonne initiative, parce que beaucoup de personnes n'ont pas, les moyens, et parfois se disent pas que c'est disponible pour eux d'aller chercher quelques diplômes, des choses en plus. Et je trouve que ça permet de se grandir soi-même, d'aller chercher potentiellement, si on a envie d'aller chercher un petit diplôme en plus, quelque chose comme ça. Ça peut, comme tu l'as dit, moi je suis totalement d'accord sur le vecteur d'ascension sociale. Je suis d'accord, mais malheureusement d'accord dans le sens où on accorde beaucoup trop d'importance à ces diplômes, selon moi. Mais ça permet à certaines personnes, entre guillemets, pour elles, d'améliorer leur vie, donc c'est positif.
Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec toi par rapport à cette nécessité un peu d'avoir un diplôme. Mais c'est aussi là, ne pas oublier que il y a différentes voies d'accès aux diplômes qui existent. Et c'est surtout ça, en fait. Et l'expérience qu'on peut avoir pendant des années est une des voies d'accès. Alors, je ne dis pas forcément que ça va être forcément la réussite. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Je ne dis pas non plus que ça ne va pas demander, au-delà de l'aspect financier, mais je vais dire ça, entre guillemets, je dis un peu secondaire, c'est plus l'investissement personnel que ça va avoir. Je ne vais pas dire que non plus ça ne fait pas bousculer la personne, parce qu'à un moment donné, de dire... Quand la personne nous dit « Oui, mais alors je fais ça, nous sommes plusieurs, etc. » Le « on » et le « nous ». Et ce que je dis à chaque fois, « Ok, c'est très bien. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le jeu. C'est toi, en fait. C'est toi qui écris ce livre-là, cette histoire-là. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est toi, avec les autres, que tu as pu faire. » Ça ne veut pas dire que le « nous » n'existe pas. Mais là, ce qui est important, c'est toi. C'est qui tu es, qu'est-ce que tu as fait. Voilà, tout simplement.
Bah écoute, ce sera le mot de la fin. Michel, tu es venu avec un titre, toi aussi.
Oui, juste avant, je
oui, vas-y. Donc, c'était pas le mot de la fin.
Non, je voulais dire simplement que j'avais une batterie de questions à poser, mais en fait, il a répondu à toutes les questions au fur et à mesure. Donc, mes questions se sont...
Tu auras quand même ton tampon sur la carte d'abonnement, Michel, t'en fais pas.
Mais voilà, c'est la seule question que je peux poser à Erwan, c'est, à ton avis, dans la VE, qu'est-ce qui est le plus souvent sous-estimé de la part des décideurs publics, par exemple.
Ah, de la part des décideurs publics.
Ouais.
Alors,
c'est une grosse question.
Ah oui, c'est une très très grande question. Alors, tout simplement parce que quand je vois l'évolution qu'il y a pu avoir avec notamment la création de France VAE, et cela, c'est juste pour ça, je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience que justement, pour obtenir un diplôme, ce qu'on a pu créer là, en 2002, la validation des acquis par l'expérience, c'est quand même un dispositif qui est bien présent. Et les décideurs, j'ai quand même l'impression qu'ils sont de plus en plus... ils ont cette vision-là, en fait, tout simplement. Parce que là, France VAE, cette notion d'architecte accompagnateur de parcours, on est bien le fait de construire un projet, en fait, avec une personne et de voir le côté réalisable et atteignable de ce projet-là. Donc, je pense qu'ils ont quand même pris en compte cette dimension-là, avec notamment cette...
Donc, aussi la capacité de réorienter, en fait.
Exactement. Ça arrive des fois, dès le premier entretien, que finalement, ce n'est pas le bon diplôme visé, en fait.
Michel, je vais être obligé de t'interrompre, parce que sinon on va pas faire l'émission jusqu'au bout, on va finir à 15h. est-ce que tu peux nous dire ce que tu as choisi comme titre, Michel ?
Oui, j'ai choisi un titre de Edwin Starr qui s'appelle War, et c'est en... c'est une manière de protester contre ce qui se passe dans le monde actuellement sur la guerre et son inutilité pour le bien commun.
Ok, ça marche.
Dans l'actualité ce matin, la mairie de Paris perquisitionnée ce mardi par le parquet national financier. Les enquêteurs envoyés s'intéressaient à l'attribution d'un contrat de marché public passé sous le mandat d'Anne Hidalgo. Celui-ci concernait l'organisation de la commémoration des attentats du 13 novembre 2025 d'un montant d'1,5 million d'euros. Le gouvernement réfléchit à engager des poursuites pénales contre la chaîne d'information CNews suite à une séquence raciste à l'encontre du maire LFI de Saint-Denis, Bali Bagayoko. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a qualifié d'ignoble et d'absolument inacceptable ces attaques, avant que le Premier ministre Sébastien Lecornu annonce que l'État se constituera partie civile si le maire insoumis porte plainte. Le texte de loi interdisant les réseaux sociaux aux moins de 15 ans a été approuvé par le Sénat ce mardi. Si Emmanuel Macron souhaite que ces mesures soient appliquées dès septembre, le gouvernement redoute que le texte soit rejeté pour cause de non-conformité avec le droit européen. C'est pourquoi le texte approuvé ce mardi par les sénateurs comprend une légère évolution. Désormais, seuls les réseaux sociaux susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des moins de 15 ans leur sont interdits. Dans le reste de l'actualité, Israël annonce suspendre toute importation d'armes venant de la France. L'État hébreu engagé dans des guerres contre l'Iran et le Liban renonce aux armes françaises après que Paris ait refusé le survol de son territoire à certains avions américains contenant des équipements militaires à destination d'Israël et du Moyen-Orient. Trump déclare que les États-Unis se retireront d'Iran d'ici 2 à 3 semaines. Un mois après le début du conflit, le président américain prépare le retrait de ses troupes sur le terrain, considérant son but atteint, selon ses dires, exhortant par ailleurs les pays du Golfe à se battre eux-mêmes pour la réouverture du détroit d'Ormuz. Une journaliste américaine a été enlevée en Irak et annoncée à Washington ce mardi soir. Un groupe pro-Iran serait à l'origine de cet enlèvement et les autorités irakiennes ont déclaré mettre tout en œuvre pour retrouver la reporter. Un des suspects a d'ores et déjà été arrêté.
Merci Théo. Juste une petite chose, vous savez qu'à chaque fois je rebondis sur ce que dit Théo. Je ne comprends pas comment que ça se fait qu'à partir du moment où ça revient de devant le Sénat, cette histoire concernant les réseaux et les jeunes de moins de 15 ans, c'est le genre de questions qu'on se pose avant normalement. C'est-à-dire qu'on se rend compte au dernier moment qu'effectivement il y a un problème avec le droit européen. Alors je sais pas qui a fait cette loi, je ne sais pas qui a imaginé tout ça, mais à un moment donné, il faut arrêter de nous prendre pour des billes. C'est-à-dire que ce genre de questions, n'importe quel avocat, n'importe quel juriste qui s'occupe un petit peu du droit européen et du droit national doit pouvoir attirer l'attention de, des gens qui rédigent les lois en disant là ça passera pas. C'est-à-dire que cette loi elle a déjà fait l'aller-retour, si je me souviens bien, entre l'Assemblée nationale et le Sénat, et au dernier moment on se dit on va peut-être rajouter un truc parce que ça va pas le faire avec l'Europe. Alors on peut penser ce qu'on veut de l'Europe, hein, mais là je parle simplement sur un plan législatif, je comprends pas trop pourquoi on en est là. C'est-à-dire que il y a une certaine impréparation, il y a un certain amateurisme de la famille politique en ce moment qui m'étonne. Voilà. Théo, tu vas nous faire ta rubrique et elle porte sur quoi ta rubrique aujourd'hui ?
Elle porte sur le jour aujourd'hui, le 1er avril, hein, pour aller sur quelque chose d'un peu plus léger. Je vous l'apprends pas, on est le 1er avril, on est plutôt sérieux hein, jusqu'à présent. Mais justement, je voulais vous poser la question, est-ce que vous savez d'où vient cette coutume de faire des farces en ce jour spécial ?
Eh ben pas du tout.
Ah,
j'ai jamais regardé.
Alors l'origine du poisson d'avril, elle est assez controversée, mais la majeure partie des historiens pensent que cette tradition remonte au Moyen-Âge, plus précisément à l'époque de Charles IX. Alors jusqu'en 1564, les dates étaient régies par le calendrier julien et le jour de l'an était fêté le 25 mars, et ce jusqu'au 1er avril. Alors il y a eu une décision donc, de Charles IX qui fait de passer au calendrier grégorien. La date du jour de l'an est avancée à celle qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire le 1er janvier. Bon, alors comme au Moyen-Âge, on n'avait pas les mêmes moyens de communication, certains ont mis un peu de temps à comprendre, et d'autres petits malins se moquaient d'eux, les traitant donc de poissons d'avril. Là, normalement, si vous suivez bien, vous avez compris d'où vient la fête, mais il reste une inconnue, c'est pourquoi le poisson. Et encore une fois, rien de sûr à 100%, la tradition du poisson d'avril vient des pays francophones et d'Italie. Aux États-Unis ou en Angleterre, par exemple, on parle d'April Fool. Les farces restent, mais sans le poisson. Alors l'explication pourrait être religieuse. En période de carême, le poisson est un mets privilégié. Et on compare aussi les victimes de ces farces aux poissons, qui seraient des animaux faciles à tromper et attraper. Alors on l'a vu, la tradition se retrouve à l'international, mais pas de la même façon. Ainsi en France, on colle des poissons dans le dos. Aux Pays-Bas, on jette des harengs sur les gens en criant « haringenk », « harengs fou » en traduction. Au Portugal, on jette de la farine sur les passants. Et dernier exemple que je trouvais sympa, en Irlande, on envoie quelqu'un porter une lettre où il écrit « Envoyez cet idiot à quelqu'un d'autre ». Ainsi, le messager est expédié de destinataire en destinataire jusqu'à ce que quelqu'un ait pitié de lui.
De tous, c'est le premier que je préfère.
Il est pas mal celui-là. Hein.
Le dernier que je préfère. Ouais. Entre les deux, se ramasser un hareng dans la figure, je ne sais pas si c'est une bonne idée.
Ouais, c'est assez violent quand même. Ouais. Hein.
Ça rappelle un peu ce qui se passe à Dunkerque avec le carnaval.
Ouais, exactement.
Ouais. T'as déjà participé au carnaval
non,
à Dunkerque ?
Non, je suis jamais allé. Ça a l'air sympa.
Bah, écoute, si t'y vas, t'as intérêt à te méfier un peu.
Ouais.
Moi, je connais des gens là-bas, ils
couvrir,
y vont plus.
Quoi. Faut se couvrir.
Voilà, tout à fait.
Okay.
Théo, qu'est-ce que tu nous as choisi comme titre aujourd'hui ?
J'ai choisi Full Sentimental de Monsieur Souchon.
Il y a une raison ?
De un, j'aime bien la chanson, et de deux, je trouve que, après c'est mon interprétation personnelle, je la trouve sympa ce qu'il dit, c'est-à-dire que cette chasse au rêve, au désir absolument qui nous consume totalement. Je la trouve un peu sympa dans le sens où il critique. J'ai l'impression, après, c'est vraiment mon impression, moi, c'est qu'il critique un peu ça. C'est-à-dire qu'on veut aller tout le temps chercher le succès, quoi, alors qu'on est avant tout des êtres régis par nos sentiments et qu'on devrait se renfermer là-dessus. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'interprète.
Waouh. Tu vas faire un VAE de psycho.
Doute, peut-être, je sais pas.
Ok. Eh bien, on écoute la chanson, on se retrouve juste après.
Thank you. c'est maintenant, c'est la rubrique de Claude.
Vous avez certainement suivi la campagne absolument ignoble concernant le maire de Saint-Denis. Je devrais plutôt dire les maires d'origine étrangère ou à la couleur de peau différente de celle que l'on voit sur CNews. Je ne reviendrai pas sur l'expression raciste, les sous-entendus abjects des commentateurs qui se disent journalistes mais qui sont juste là pour cracher leur haine des autres. Je ne reviendrai pas non plus sur le silence de nos élus nationaux qui, par leur manque de réaction immédiate, favorisent l'installation d'un climat délétère, même si depuis, ils ont enfin réagi. Non, je voudrais juste attirer votre attention sur ce qu'est la démocratie. Quand on est démocrate, on respecte les urnes. On respecte la décision des citoyens. Le maire de Saint-Denis a présenté un programme. Il a été élu sur ce programme. Dans son programme, il y avait la décision de désarmer la police municipale. Le maire de Saint-Denis se doit de respecter sa parole. C'est ce qu'il va faire. Dont acte. Ce n'est pas un quelconque média de remettre en cause la décision des habitants de Saint-Denis. Viendrait-il à l'esprit des chroniqueurs de CNews et autres télés privées de remettre en cause les choix des électeurs de Nice ? Si les habitants de Saint-Denis ne se retrouvent pas dans ce choix, ils peuvent manifester, écrire au maire, mais surtout attendre de voir ce que donnent les mesures mises en place. Bref, ne pas écouter les médias super politisés. Mais allons plus loin dans notre raisonnement. Est-ce que parce qu'un groupe a la majorité, il a forcément raison ? Est-ce que ce groupe qui a la majorité est sincère et suffisamment informé pour imposer aux autres ses attentes ? Changeons de pays. Allons en Israël. Ce que je vais dire n'a rien à voir avec la religion. Vous avez entendu que ce pays, qui est une démocratie, vient de voter l'extension de la peine de mort. Cette peine de mort est destinée aux Palestiniens condamnés pour terrorisme. Cette loi, qui rappelle les lois nazies pour exterminer les Juifs d'Europe, a été votée par le Parlement israélien, que l'on appelle la Knesset, par une majorité. Qui constitue cette majorité ? Des hommes d'extrême droite soutenus par les partisans du Premier ministre Netanyahou. De la même façon, une autre démocratie, du moins ce qu'il en reste, approuve et encourage la peine de mort. Vous avez deviné, il s'agit des USA. Deux pays souverains, deux pays avec des élections, deux pays en leur tête, deux dirigeants faisant passer leurs intérêts personnels avant le bien de leurs compatriotes. Deux pays qui, en ce moment, bafouent le droit international, favorisent l'escalade meurtrière pour l'ensemble du monde. Deux pays qui sont trompés par leurs dirigeants. Pourquoi sont-ils au pouvoir ? Les médias et les réseaux sociaux y sont pour beaucoup. Pas exclusivement, mais quand même pour beaucoup. Alors quoi ? Il ne faut pas respecter la majorité ? Si, bien sûr. Mais surtout, il faut être vigilant. Il ne faut pas que les amis de Trump et Netanyahou puissent prendre le pouvoir en France. Il faut s'informer, garder un esprit critique, même avec les médias proches de vos idées. Il faut respecter aussi les hommes et les femmes qui, en notre nom, s'investissent dans nos communes, et cela même pour les maires sortants, qui sont peut-être d'ailleurs vos élus de demain. Bref, c'est en respectant le vote d'aujourd'hui, en s'informant grâce à plusieurs supports, en discutant avec vos proches, vos amis, vos voisins, que l'on assure la démocratie de demain. J'ai envie de vous passer une chanson qui résume un petit peu ce que je pense par rapport à la guerre, par rapport à nos dirigeants. On va écouter du Boris Vian, on va écouter la Java de la bombe nucléaire.
Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe à mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans. J'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant leur repas, la tonton qui soupire et qui s'écrit comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bande. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Quand on devant ce résultat ne se dégonfla pas et joua les andouilles, au tribunal on l'a traîné et devant les jurés le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu comme mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant les luttes immédiatement, chef du gouvernement.
Et on va continuer sur les sorties dans le 13e arrondissement avec le pop-up Missing Have You Seen My Clothes. Jusqu'au 17 mai, le Yellow Cube Gallery vous accueille et se transforme en pop-up de seconde main où se mêlent art et vestiaire vintage. Pour l'occasion, ils ont sorti de leur placard leurs plus belles pièces, vêtements de collection, affiches, vintage, vinyle, accessoires, une large collection de livres et d'art et bien d'autres surprises, tout cela à partir de 2 euros. L'entrée est libre et il est temps de profiter des beaux jours qui arrivent. Alors, dans le cadre du mois de la santé mentale, le Labo des Histoires organise à la Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 13e arrondissement deux ateliers d'écriture créative destinés aux jeunes dès 14 ans pour se reconnecter à son corps, ses émotions et pour prendre la parole en se réappropriant le langage du soin. Alors le jeudi 2 avril de 17h à 19h, atelier d'écriture slam, ta santé, tes mots, un atelier pour prendre la parole et réinventer les mots de la santé avec le slam. Et le vendredi 10 avril de 16h à 17h30, un atelier d'écriture boxe, tes mots. Ces séances vont dialoguer ring et carnet, d'un côté la boxe avec un coach sportif pour libérer le corps, canaliser l'énergie et travailler la discipline, de l'autre l'écriture avec une autrice pour mettre en mots les sensations physiques, les émotions vécues dans l'effort et les métaphores du corps en mouvement. Cet événement fait partie des Journées des métiers d'art 2026, à l'occasion des Journées européennes des métiers d'art et de l'exposition Tisser, broder, sublimer, le Palais Galliera et l'Institut pour les savoir-faire français propose une programmation unique entre rendez-vous d'exception, conférences et nocturnes. Ce cycle inédit invite à la découverte des savoir-faire de la mode aux côtés d'artisans d'art, maîtres d'art et autres auteurs talentueux. Notamment la conférence Cycle des histoires et des modes le mercredi 8 avril à partir de 18h30. Le Palais Galliera donne la parole à celles et ceux qui pensent et font la mode, chercheurs, créateurs, designers, artisans d'art. Avec ce nouveau cycle, le musée met en avant des ouvrages, des récits et des parcours en lien avec le patrimoine de mode. Lors de cette table ronde, l'ouvrage collectif Théâtre de la mode qui paraît aux éditions Manuela permettra de comprendre les différents métiers à l'œuvre dans la fabrique des défilés. Un espace où architectes, artistes, plasticiens et créateurs de mode se retrouvent pour donner à la mode toute sa dimension spectaculaire. Il sera présenté par ses auteurs avec une introduction d'Émilie Amen, directrice du Palais Galliera. On passe à la nocturne. On aura une nocturne, le vendredi 10 avril 2026 à partir de 18h30. Et une rencontre avec Blandine Mercier, plumassière et Capucine Hervault, brodeuse d'art plasticienne. Au cœur de la nocturne, Blandine Mercier, jeune modéliste plumassière et Capucine Hervault présenteront en direct leur savoir-faire respectif des parures de tête pour sublimer les tenues et accessoires pour l'une, des techniques de broderie sur des supports surprenants et poétiques pour l'autre, autant de réalisations proposant aux visiteurs une immersion au cœur de savoir-faire d'exception. Maintenant, pour faire plaisir à notre technicien aux commandes Jason, on va passer Billy de Michael Jackson. We'll be right back.
De retour dans les studios de Mon Paris FM dans En Direct du 13, pendant qu'on écoutait Michael Jackson, on a eu une petite conversation ici dans le studio avec Erwan, Michel et Monsieur Théo. Et Erwan, tu veux nous rappeler ce qui s'est passé dans le Finistère ?
Bah oui, tout à fait, Claude. Donc nous sommes fin des années 80, plus précisément en 89, où c'était donc un premier maire d'origine africaine qui a été élu, donc sur une petite commune du Finistère que je connais plutôt assez bien, parce que bon, voilà, je suis originaire de ce département-là où je dirais tout débute ou c'est la fin, ça dépend comment on veut l'en comprendre. Et donc c'est donc le maire, c'était Kofi Yanyam, qui était donc maire de Saint-Colis de 89 à 2001 quand même.
Qui était un maire socialiste, si je me souviens bien.
Je crois aussi.
Et je me demande s'il n'est pas même rentré au gouvernement à un moment donné. Il me semble qu'il a eu un poste au gouvernement et qu'il a été absolument apprécié, que ce soit au niveau du Finistère ou au niveau national. C'est quelqu'un qui a beaucoup apporté. Et je voudrais, moi, en même temps, revenir un peu sur cette polémique, parce qu'il n'y a pas que le maire de Saint-Denis, et je crois que c'est celui de Courbevoie aussi, qui ont été visés, mais il y a un maire qui est d'origine Sri Lankais et qui a accordé une interview à la télévision Sri Lankaise dans sa langue. Et ça a donné sur CNews, c'est le grand remplacement, on ne parle plus français, on parle étranger, on n'a pas le droit de faire ça. Enfin, ça a été une horreur et moi, je ne supporte plus. C'est-à-dire que je ne regarde jamais CNews maintenant. Je zappe CNews parce que dès qu'il y a quelque chose qui peut être stigmatisé, ils le font. C'est réellement incroyable. Et vous avez vu aussi que dans un conseil municipal, il y a une dame qui avait un foulard sur la tête. Et alors, on peut penser tout ce qu'on veut du foulard ou pas, mais elle a le droit de le faire. La loi n'interdit pas de le faire. Et sur CNews, c'était encore une fois le grand remplacement. On n'a pas le droit de faire ça, c'est pas admissible. Et je dis qu'avec ce genre de réaction, c'est là qu'on a ce qui se passe avec ce que j'ai dit tout à l'heure sur les lois sur la peine de mort en Israël, sur ce qui se passe avec Trump aux USA, ce qui se passe dans d'autres pays. J'ai pas peur de dire en Russie ou en Corée du Nord, où on a des gens qui profitent des situations, qui profitent des idées des autres pour se maintenir au pouvoir et imposer leur propre vue. Alors je sais pas ce que vous en pensez, messieurs, mais moi, c'est quelque chose qui m'inquiète de plus en plus.
Pour reprendre ce que tu as dit tout à l'heure, moi je trouve que c'est assez fatigant, c'est-à-dire que ce monsieur à Saint-Denis, il a été quand même élu pour ses idées, et je remarque quand même que dès son élection, on a eu, et depuis ça dure encore, une cabale médiatique à son encontre, c'est-à-dire que ça faisait les gros titres sur toutes les chaînes d'information en continu, CNews évidemment, mais pas que, honnêtement, à se poser des immenses questions. Est-ce que Saint-Denis va encore faire partie de la République française? Est-ce que cette ville, elle n'est pas en danger? Elle n'est pas perdue pour toujours? Enfin, calmez-vous. Il vient d'être élu. Vous jugerez à la fin de son mandat par rapport à ses idées et ce qu'il a fait réellement. Et là, ce monsieur, il n'a même pas eu le temps d'entrer vraiment en fonction qu'on l'accuse de tous les maux de la ville comme s'il était déjà au pouvoir avant. Enfin, je trouve ça assez dingue. Et encore une fois, c'est la première fois pour moi que j'entends autant parler d'un maire alors qu'il vient d'être élu, c'est-à-dire que il y a plein de maires en France qui ont pour le coup des casseroles connues, qui ont été beaucoup 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 moins médiatisées que ce pauvre gars qui vient d'arriver et qui a en effet remporté une élection municipale, quoi. Et je trouve ça assez dingue en 2026 d'en être là et de encore une fois réduire ce monsieur à sa couleur de peau, c'est assez fou.
Ce qui est assez énervant, pour tout vous dire, c'est qu'on a quand même deux maires qui ont été élus à la campagne, dont un qui a été accusé de viol et qui est toujours suivi. Un autre qui a été accusé aussi, je crois, d'avoir tabassé quelqu'un ou je ne sais plus trop quoi dans sa famille. Et ça ne fait pas les titres de CNews, BFM et autres chaînes d'infos. Et là, pourtant, il y a quelque chose à dire. Parce que quelqu'un qui a été condamné ou qui va être condamné pour viol, c'est quand même quelque chose qui est quand même inacceptable, inacceptable. Alors évidemment, ce monsieur qui a fait ça, il est blanc, il est sans étiquette ou étiquette, j'en sais rien du tout, mais c'est pas admissible qu'on puisse stigmatiser comme ça un maire parce qu'il a une couleur de peau qui plaît pas. C'est pas admissible de stigmatiser un maire qui a décidé d'enlever une partie des armes de sa police municipale pour appliquer son programme. Et en plus de ça, ce qui n'est pas admissible, c'est de dire que 90 personnes sur 130, je crois, vont démissionner de la police municipale, alors que c'est faux. C'est une information qui a été donnée par son opposition. C'est pas quelque chose qui est vérifié. Donc, franchement, ça devient inquiétant. Moi, je le dis franchement, quand je vois ça, c'est inquiétant parce que, autour de nous, on a des gens qui écoutent CNews et qui croient ça, ce qu'on leur dit, parce que ça s'est passé à la télé, ils l'ont dit à la télé, et donc c'est quelque chose qu'on met pas en cause. Et quelque part, on doit se poser la question, comment agir avec les médias, comment réagir avec les médias, comment former nos jeunes, puisque nous, c'est un peu trop tard, mais comment former nos jeunes par rapport aux médias? Qu'est-ce que t'en penses, Erwan ?
Je peux te rejoindre. Hein. C'est vrai que ça pose beaucoup de questions par rapport à cela. C'est, je dirais qu'il y a une personne qui a été élue par rapport à sa proposition de programme qui a satisfait une majorité sur le territoire défini. Et puis là, maintenant, dès qu'il démarre certaines initiatives, de suite, on remet plus qu'en question. Hein. C'est vraiment la polémique par rapport à ça. Il faut aussi lui laisser le temps de pouvoir mettre en place, de pouvoir faire des ajustements aussi, tout simplement. C'est ça qui est le plus important. On est quand même aussi sur une ville qui est complexe, qui est très riche, qui a une très grande histoire aussi, même l'histoire de France, très très riche, Saint-Denis. Mais c'est aussi une ville qui est en train d'évoluer. Et il est important aussi de laisser effectivement que ça soit à ce maire-là, mais aussi sur d'autres villes hein, qu'on prend en Île-de-France. Mmh. Il y a aussi d'autres municipalités où il y a de grands changements. Il faut aussi laisser un petit peu le temps. C'est fait uniquement que dimanche. Il y a quelques jours, juste les élections, le temps qu'il prend ses places. Mais c'est bien aussi je trouve que c'est très courageux. Effectivement, d'avoir cette initiative-là et lui donner le temps, et puis de voir après, effectivement, durant son mandat, comment il va faire évoluer un peu son positionnement. Mais c'est vraiment très, très courageux dans une ville telle que Saint-Denis d'avoir de suivre cette initiative et aussi d'avoir cette vision pour Saint-Denis, en fait.
On peut rappeler au passage quand même que toutes les polices municipales ne sont pas armées et que ce n'est pas pour autant qu'il y a plus de crimes et qu'il y a plus de vols et qu'il se passe plus de choses. C'est-à-dire qu'il faut raison garder. Et là, on a quand même des gens qui sont là pour souffler sur les braises et pour stigmatiser, pour... Alors, je ne sais pas dans quel but. Enfin, je ne veux pas... Je le sais, on sait tous, mais bon, on ne veut pas le dire. Mais c'est vrai que ça pose problème.
Ce que je veux dire, c'est qu'il a été élu dans ces idées-là et ça fait partie de son programme. Enfin, c'est une idée qu'il avait qui a été marquée dans le programme. Les gens ont voté pour ce programme. Je trouve ça assez malhonnête de critiquer quelqu'un qui met en place ce qu'il a promis dans son programme pour son mandat, en fait. Et pour revenir sur tout ce qu'il a subi, c'est vrai que le soir même de son élection, il avait déjà été victime de fake news sur ce qu'il avait dit par rapport à la ville des Rois. On l'avait accusé d'avoir... nier ça et d'avoir dit la ville des Noirs alors qu'il avait dit la ville des Rois et du peuple. Et ça revient sur ce que je disais sur la cabale médiatique que ce maire subit dès son élection. Et en effet, si ça marche, ce désarmement, donc je crois qu'on parle plutôt de LBD, de la police municipale,
oui.
Tant mieux. Si ça marche pas, en effet, il va devoir s'ajuster ou quoi. Et ça fait partie aussi des devoirs de maire de se remettre en question. Donc à voir et laissons le temps aux choses, quoi, c'est juste ça.
On appelle ça la démocratie. Écoutez, messieurs, on va peut-être arrêter là notre émission d'aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir, d'abord pour le VAE, de nous avoir expliqué tout
ça. Merci, merci pour l'invitation.
Voilà, merci Michel aussi d'être intervenu. Merci Monsieur Théo.
Merci.
Ce petit échange qu'on a eu en fin d'émission, moi je trouve ça très riche. Je vous invite la semaine prochaine à suivre encore notre émission en direct sur Mon Paris FM, dans En Direct du 13. On va lancer notre jingle de fin. Et on va remercier au passage Jason derrière les manettes
beaucoup.
Là-bas. Merci beaucoup, Jason. Et à très bientôt. Ciao, ciao.